Bienvenue dans Crossroads, l'émission qui s'intéresse à toutes les musiques et qui donne la parole à celles et ceux qui les font vivre et prospérer. Musique sans frontières à l'affiche de ce Crossroads qui vous propose un voyage qui a pour étape le jazz rock oriental de Sarab ainsi qu'une plongée dans le monde du didgeridoo grâce au duo Digital. Deux reportages et interviews donc réalisés respectivement à la Cordeau de Roman en juin et au Gros Festival de Perrin en septembre. Outre ces deux rencontres, Crossroads ouvre également sa programmation à diverses musiques proches de celles proposées par les deux groupes précités. Parmi celles-ci, la musique hybride et ouverte sur le monde de Nguyen Le, guitariste jazz fusion mondialement reconnu. Ici, un extrait de son tout dernier album, joliment intitulé « Silk and Sand » Baraka.
Thank you.
Sans plus attendre, premier reportage consacré au groupe Sarab, incarné principalement par Clémen et Baptiste, chanteuses et guitaristes du groupe. Groupe en perpétuelle évolution, à tel point que leur plus récent disque Arwa Ouro ne reflète plus véritablement la musique jouée actuellement en live, les soufflants n'étant plus de la partie, provoquant de fait une prise de distance avec le jazz pour proposer un son plus rock et carré, dans un cadre qui s'appelle apparenterait à un post-rock très personnel grâce à la guitare incisive de Baptiste et à la présence incandescente de Clémen à travers des textes majoritairement chantés en arabe. Un groupe donc à suivre au fil de ses évolutions. Premier extrait de l'album précité, en prélude à quelques éclaircissements bienvenus en ce 6 juin dernier à la Cordeau de Romans.
Thank you. أكون على بالك الورد له أحوال يا ريتني أعرف يا ريتني أعرف حالك.
Bonjour Climène et bassiste, respectivement chanteuse et guitariste de Sarab, le groupe qu'on va avoir la chance de découvrir ou redécouvrir ce soir, à la faveur, alors non pas à la faveur de la sortie du dernier album, parce que je crois qu'il n'est pas encore sorti, non. Mais à la faveur d'une tournée néanmoins, hexagonale, c'est ça ? Mini-tournée au moins ?
Interstellaire, demain on est sur Pluton, après-demain sur Mars. Non, hier on était aux abattoirs de Bourgoin et voilà.
Petite tournée en Rhône-Alpes, tranquille. Ouais. Mais on a une plus grande tournée en juillet au Canada et ça c'est chouette. Et là on est encore sur la fin de la tournée de notre EP qu'on a sorti en 2023. Donc là c'est un peu les fins des dates qui arrivent pour ça et pour annoncer l'arrivée aussi du prochain album.
Vous jouez éventuellement certains titres de l'album qui est pressenti ou pas du tout pour le moment ?
On essaye, on tente. Ouais,
histoire de roder
ouais.
Les morceaux.
Exactement, c'est ça, là on essaie de trouver des formes. Ouais.
Pour le live.
Pour le live, ouais. Parce que du coup, nous, on joue pas mal. On vient de musiques un peu innovantes, entre guillemets. Donc, c'est des choses. On se donne des challenges quand même. Autant au niveau de la façon d'agencer les appareils, mais aussi la façon de les jouer, la recherche de son, tout ça. On est très liés avec notre ingé son. Et du coup, en fait, c'est un chantier permanent, quoi. On a personne qui vient avec la vérité. On essaie de la trouver tous ensemble. C'est pas évident. Et on est là-dedans, quoi. Voilà, actuellement.
Trouver l'alchimie.
Exactement.
Eh ouais, c'est vrai. Mais l'alchimie, vous l'avez déjà trouvée. Je veux dire par là que vous en serez quand il va sortir à votre quatrième album, si on inclut le EP.
Oui.
C'est bien ça.
C'est bien ça.
Hein, vous êtes, entre guillemets, bien productif quand même, hein, tous les deux ans, allez.
Oui.
Bah ouais. Hein.
C'est bien, hein, c'est super.
Oui, c'est
on fait
bien,
ce qu'on peut, écoute.
Oui.
Est-ce qu'on peut dire que les albums se complètent ou l'histoire de l'un précède l'histoire de l'autre ? Est-ce qu'il y a une continuité comme ça qui s'inscrit dans le temps ou pas ?
Mais en tout cas, à travers les albums, on peut bien voir l'évolution de Sarab et de voir à quel point on est parti dans plein de directions différentes. Mais oui, on peut dire ça. C'est joliment dit ce que vous avez dit. Mais oui, en tout cas, les quatre albums sont assez différents les uns des autres et c'est ça qui est chouette.
Bah, on n'a pas écrit un thriller en quatre parties, quoi. Ce qu'on peut suivre, c'est notre évolution, l'évolution de nos goûts, nos personnalités.
Oui.
Et voilà, de l'histoire de notre petit groupe. Mais par contre, on n'a pas eu une réflexion sur 10 ans à se dire premier volet, machin. Non, on n'a pas fait ça.
Non, mais des fois, ça se fait comme ça, je veux dire, avec le recul, en écoutant, comme un cinéaste qui regarde ses films. Vous voyez ce que je veux dire, hein, quelque part, l'histoire s'écrit, quoi, au fur et à mesure. Vous êtes tous les deux à la base du groupe, hein, c'est bien ça. Est-ce que vous pourriez me raconter un petit peu la jeunesse de tout ça, ce qui pourrait éclairer éventuellement la musique que vous proposez ?
Non, on s'est rencontrés à travers le jazz, je crois, enfin les musiques improvisées un peu. Mais moi, je commençais tout juste à connaître ces musiques-là. Mais Baptiste, il a des bagages très différents des miens. Moi, je viens plutôt de la musique classique, la musique arabe orientale, la pop. Et pop du monde aussi, un peu de différents pays. Et du coup, forcément, quand on s'est rencontrés, on a eu envie de faire de la musique ensemble. Mais Baptiste connaissait pas, enfin tu connaissais pas grand chose à la musique arabe, il en avait jamais vraiment écouté. Donc forcément, on s'apporte des choses, on a eu des idées pour pouvoir, on va dire, mélanger et fusionner nos bagages musicaux.
Ouais. Eh ben non, mais si c'est ça, Clément m'a fait écouter de la musique arabe et j'ai chaviré, j'ai beaucoup aimé. On a quand même passé pas mal de temps à l'étudier, on l'étudie encore. Et maintenant, on essaye de d'écrire avec ça, de composer avec ce nouveau bagage. Et on essaie de faire notre musique en ayant ces visions-là, quoi. En fait, on essaie d'associer les choses de la Méditerranée et les choses du Nord, un peu. Faire un peu des ponts entre tout ça. Ça paraît un peu vague et un peu flou, mais quand même, à bien des niveaux, je trouve qu'on... Même avec qui on s'entoure, on fait très attention à ça. On fait attention à ce que ce soit assez équilibré, les gens qui ont des bagages méditerranéens, artistiquement parlant, culturellement parlant, et des gens qui soient aussi vraiment ancrés dans des visions plus rock, UK, ou du Nord, de l'Europe, voilà. Ou des gens qui ont les deux, il y en a aussi.
Sans dire qu'on... Enfin, aussi, en toute... humilité, nous faisons ça. Enfin, sans dire qu'on connaît la musique arabe, parce que oui, la musique évolue aussi, mais voilà, on n'est pas en train de dire qu'on est connaisseur ou connaisseuse de ces musiques-là totalement, quoi. On s'en inspire et on fait notre musique, ouais.
Il y a une sensibilité, en tout cas, évidemment.
Oui.
Voilà, on peut déjà dire ça. Et toi, tu avais un bagage donc plutôt dans le monde du jazz, donc à la base. Genre conservatoire, tout
non,
ça.
Non, moi j'ai fait conservatoire. J'ai fait conservatoire sur le tard, plutôt la musique de Django Reinhardt pour le jazz et le rock, quoi. Moi, voilà.
Metal
et tout. C'était. Bah en fait, avant ici en Rhône-Alpes, il y avait plein de groupes de rock, de metal et tout partout. Hein. Maintenant, je me rends compte qu'il y en a beaucoup moins. Mais quand j'étais gamin, quand on sortait, en fait, c'était ça, quoi.
Tu veux dire sur Lyon
ou... Ouais, grave. Sur Lyon, il y avait plein de groupes de punk rock et tout. Et moi, j'étais dans cette génération-là. Les grands, ils faisaient ça, en fait. Les grands, ils s'enfermaient dans les garages et ils jouaient à fond, quoi. Donc moi, je suis resté un peu là-dedans. Je suis resté bloqué là-dedans. Je kiffe trop. Mmh. Voilà.
Vous avez l'étiquette de groupe jazz, néanmoins. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on peut lire à votre propos. Oui, hein, oui. Ça revient à chaque fois. Jazz, rock, oriental. Mmh. Bonjour l'étiquette. Mmh. Mais...
Bonjour l'étiquette, ouais.
Mais qu'est-ce qu'il y a de jazz, finalement, dans votre musique ? Un certain esprit.
On a eu plus l'étiquette jazz au début de Sarab, parce que quand même Baptiste vient du métal et du rock, mais il y a quand même le batteur qui vient un peu du jazz quand même, le tromboniste qui n'est plus avec nous, mais Robinson, il vient du jazz aussi, et Thibaut aussi, du classique et du jazz. Et du coup, il y avait quand même ce truc-là très présent de faire des solos à rallonge, de... Pardon. Je me suis emportée.
Non,
mais par rallonge.
Tu pourrais nous dire un peu.
C'était en trop, ouais. C'était en trop. J'aime le jazz.
Ça sonne faux quand tu dis ça.
Ouais, mais non, mais il y avait quand même. Il y avait quand même une empreinte beaucoup plus jazz qu'aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le jazz, ça veut dire. En tout cas, le jazz a un point commun avec la musique orientale, parce que dans la musique orientale, il y a aussi des parties très écrites, il y a aussi des improvisations. Donc en fait, déjà, ça veut tout, un peu tout et rien dire. Donc là, pour moi, il a un peu mis jazz. En plus, il a une... Je pense une... Quand on entend groupe... Quand on voit écrit groupe de jazz oriental, on s'attend un peu à du Darfur Youssef ou des choses comme ça, quoi. C'est très connoté, bizarrement. Donc quand on arrive avec Sarab, on est là. Ah, mais en fait, c'est pas, vous n'êtes pas du tout... Enfin, vous n'êtes pas un groupe de jazz. Ah bon? Ah, ok. C'est marrant. Quand on va jouer dans des festivals musique actuelle, on nous dit qu'on est jazz. C'est très... Bref.
Est-ce que ta voix, tes lyrics, influencent éventuellement parfois la musique? Ou est-ce que ce sont les sons proposés, voire les mélodies, les harmonies qui vont te faire penser à une certaine approche en tant que chanteuse?
Je pense qu'il y a un peu des deux. Parfois, c'est moi qui ramène déjà une idée de parole avec une mélodie et... une rythmique et quelques accords, et parfois c'est le contraire, c'est Baptiste qui arrive avec une idée d'histoire et la mélodie et tout, et après on discute de comment le dire, comment le dire, comment le chanter. Et vu qu'on met beaucoup plus de français qu'avant, c'est bien parce qu'il y a une participation qui est un peu plus possible, du coup, parce que pour Baptiste notamment et les autres, mais pour les paroles, oui, du coup, c'est plus simple pour lui. S'il a, il a une idée, je peux la chanter en français. Avant, il fallait que je trouve des moyens de traduire des paroles qui étaient... c'est assez complexe de traduire vraiment, en plus, pour que ça rentre dans le rythme et pour que ce soit bien, enfin bref. Mais voilà, c'est un peu des deux.
Les textes viennent de toi, mais également de, éventuellement de poètes, de poétesses.
Oui.
Par ailleurs, les deux étant complémentaires.
Oui, j'ai utilisé beaucoup de... Enfin, j'ai emprunté beaucoup de textes et de poèmes. Et là, le prochain album, tous les textes sont de moi et de Baptiste.
Oh,
on a voulu tenter la totale écriture, quoi. Même si avant, il y avait quelques chansons que j'avais écrites et Baptiste aussi. Là, on a décidé de faire tout nous-mêmes, la musique et les paroles. On teste, faut tenter.
Quelles sont les langues alors que tu véhicules au-delà du français ?
L'arabe, bien sûr.
Ouais.
Et il y a une chanson en anglais.
D'accord.
Première chanson anglais-arabe, un mix. Mon anglais à moi. J'ai voulu faire un truc comment moi je parle l'anglais. C'est un peu. Du coup, je faudrait pas que je dise l'anglais, il faudrait que je trouve un autre nom pour cette langue, mais voilà. Mélangé à de l'arabe.
Alors, je sais pas si tu connais Maria, c'est la chanteuse d'Orange Blossom. Non, ça te dit rien. Qui est d'origine syrienne, mais qui habitait Beyrouth. Qui me racontait l'année dernière, justement, à Djolfi, un peu son parcours, quoi,
oui.
Depuis la Syrie. Donc, j'imagine que toi aussi, enfin, je sais pas si tu as réellement vécu en Syrie ou pas. Alors, je sais pas, après, est-ce qu'on a envie de dire ou pas, quoi, c'est ça hein.
Je sais pas quoi dire parce que moi j'ai pas dû. J'ai vécu un exil très différent des personnes qui ont dû partir de la Syrie. J'ai pas connu la guerre quoi.
Ouais, d'accord.
Donc je vais pas en parler. Je pensais pas moi d'en parler. Moi oui, je peux parler juste du fait de pas pouvoir retourner chez soi pendant longtemps et donc non on a le peuple syrien a beaucoup souffert. Comme les musiciens, comme tous les artistes, toutes les personnes en fait, artistes ou non. Donc, je sais pas si moi mon histoire est la plus importante à raconter parce que voilà, mais
tu le racontes à travers tes paroles d'une façon ou d'une autre déjà.
Oui, complètement.
Ouais. Même si c'est par des biais poétiques, enfin, tu vois, c'est.
Non, je trouve on trouve toujours un moyen de parler de nos ressentis, de nos mal-être, de tout ça en fait. Quand on est artiste, il y a toujours un moyen d'exorciser un peu ça, on va dire. Comme on peut.
Tu le fais avec un mégaphone, notamment sur scène.
Oui.
Ce qui te permet aussi de bien maîtriser ta voix par rapport aux instruments environnants.
Bah, oui.
Hein, c'est toujours une question qui se pose, ça aussi, l'équilibre, instruments et voix.
Ouais, surtout quand on joue fort, ouais.
Oui.
Mais là, en l'occurrence, là, c'est plutôt le symbole qui nous intéresse aussi de trimballer un mégaphone,
ouais.
Tu vois, de le ramener à chaque fois, qu'est-ce que ça veut dire, et l'image, quoi.
Ouais.
Au-delà du son, et voilà.
Vos morceaux sont contrastés, je veux dire d'un morceau à un autre, on plonge dans un univers différent, déjà ça c'est super, et même au sein d'un même morceau ça peut démarrer hyper cool, voire murmurer dans une ambiance feutrée, et puis à bout d'un moment ça monte,
ouais.
y a pas une explosion mais pas loin quoi, c'est voulu ça, c'est intéressant.
Ouais, on travaille pas mal sur les ruptures,
ouais.
On n'est pas trop sur un truc de continuité nous. Pour l'instant. C'est vrai que, ouais, on aime bien les virages, quoi.
Ouais.
Que ça, ouais. Ce serait intéressant de savoir pourquoi on fait ça. Je sais pas trop.
C'est plus fort que vous.
Ouais.
Vous avez joué au Maroc, entre autres.
Oui.
On parle de Maghreb.
Oui.
Et l'accueil était comment, alors, là-bas? Ça s'est super bien passé, j'imagine.
L'accueil du public a été très chaleureuse, chaleureuse. On commence à avoir quelques personnes qui nous suivent du Maroc. Et puis moi, il y a une amie là-bas, moi, du coup, elle nous fait à chaque fois de la pub quand on y va. Donc ça, c'est pratique. Mais oui, en tout cas, c'est chouette d'aller jouer là-bas, d'avoir un public aussi arabophone. Bah, enfin, oui. Pas que arabophone, pardon. Ouais. Pas que arabophone, mais en partie arabophone. Et ouais, c'est cool, quoi. Ouais.
Rodolphe Burger, avec son projet Mademoiselle, c'est un hommage à Rachid Tara. Il racontait qu'ils sont allés récemment en Algérie et... Ouais. Et à la base, ils n'osaient pas trop y aller, parce que vu l'ambiance, tout ce qui se raconte en France, en termes de relations France-Algérie. Et puis finalement, à l'arrivée, c'était incroyable. Ils n'en revenaient pas à quel point l'accueil était... Puis les jeunes étaient fous, quoi. Déjà, ils n'ont pas beaucoup de concerts à s'offrir.
Ouais, il paraît ouais. qu'il n'y a pas trop de... Ouais, l'offre culturelle est plutôt basse, si on a bien compris.
Oui. Enfin, j'imagine que ça vous intéresse hein, de passer d'un pays à un autre. Les ambiances sont différentes ou pas forcément?
Si, carrément. Ah bah oui, on a de la chance de pouvoir voyager en ce moment. Et oui, bien sûr, bah, la Finlande et le Maroc, c'est pas la même ambiance. Ouais. Mais il y a des trucs, voilà, et sans juger quoi que ce soit. Ouais. Non, mais oui, hein, c'est très intéressant de... Bah oui, ça nous donne une vraie ouverture sur la compréhension du monde. Mais c'est vrai qu'on a un petit faible dès qu'on peut jouer autour de la Méditerranée, c'est quand même. Ouais. On a l'impression qu'on joue au bon endroit, enfin je sais pas, quelque chose comme ça. Mmh. Et puis après, en même temps, c'est cool de jouer du rock. Moi j'ai beaucoup aimé jouer à Marrakech parce qu'il y avait plein de jeunes qui étaient venus et qui étaient. En fait, ils n'ont jamais de concert de rock quoi, donc. Ou ils en ont à quelques occasions.
C'était à Marrakech.
Les jeunes qui étaient venus nous voir, et ils étaient hyper contents quoi. Ah ouais. Et qu'on mélange ça comme ça, mais c'était... Voilà, on a l'impression d'être au bon endroit, quoi.
Ouais. Par ailleurs, votre public est plutôt jeune, il est intergénérationnel. Qu'est-ce qu'on peut en dire?
Oui, intergénérationnel, oui, je dirais.
Je pose cette question parce que les jeunes, actuellement, s'intéressent à des groupes de jazz, style Snarky Puppy... ou Popo Penguin, ce genre de groupe. Donc il y a comme ça, il y a une sorte de revival, un intérêt croissant vis-à-vis de ces groupes-là, voilà, de la part d'un public qui n'a pas forcément connu le jazz avant, quoi. Donc c'est pour ça que je vous pose cette question.
Ouais, bah comme nous. Hein, après, je pense que ça dépend vraiment des endroits où on est accueilli et des contextes. Ouais, franchement, on a joué devant toutes sortes de publics.
Enregistrement de l'album, ça se passe comment? Vous avez un studio attitré d'un album à un autre ou pas forcément?
Non, ça dépend. Écoute, là, on est allé à Bruxelles.
Ah oui?
Pas la deuxième fois.
Ouais. Ah, quand même, donc c'est un choix bien, on voulait aller là-bas. Bien pensé. Là,
ouais, carrément. Et puis, on finit de mixer tout ça, puis on espère que tout sera prêt pour la rentrée. Mm-hmm.
Elle arrive aujourd'hui, alors je vais quand même dire bonne fête à toutes les personnes musulmanes à qui ça fait plaisir de fêter l'Aïd.
Ouais.
Voilà, donc bonne fête tout le monde.
D'accord.
Voilà, c'est important. C'est comme, c'est une grande fête chez nous.
Bien.
Et toi, tu veux dire
autre chose? Un gros bisou à tout le monde.
Merci à vous deux, merci au groupe par procuration.
Merci ouais, carrément.
Merci on précise que vous êtes 6 en tout, hein, quand même, sur scène.
On est 5 avec quelqu'un...
Non, mais c'est pas t'inquiète. Grave.
Bon, on la refait.
Non, même pas. Rien. Alors, basse, batterie, guitare, chant, trombone.
Il n'y a pas de trombone, il n'y a plus de trombone.
Voilà.
Super, bon, la précision était intéressante.
Bah oui, oui.
Ouais. Merci à vous.
Merci à toi, Denis.
Merci beaucoup.
Yeah.
Un instant après un second titre de Sarab, le bien nommé Réminiscence, nous écoutions Yema, chanson issue de l'album Maida de Babel Blues, groupe que nous avons découvert le 4 juillet dernier au festival Oasis Bizart de Djulfi. Babel Blues ou le Gnawa psychédélique, incarné par la chanteuse percussionniste et joueuse de guitare Gembri double manche, Youssa Mansour, sans oublier Brice Bétain lui aussi aux guitares et Gembrik. Musique du monde débridée, ouvertement rock, aux rythmes entêtants, surtout en live. Autre révélation de l'Oasis Bizart, cette fois en 2024, Koutou, né d'une rencontre fructueuse à Addis Abeba en Éthiopie, entre deux chanteuses éthiopiennes, Ewan et Alléluia, et le violoniste de jazz Théo Sekeldi, combo incandescent dans lequel la liberté du jazz percute la profondeur des voix Azmari. Ambassel, titre issu du premier album de Koutou, nommé Guramail.
Fair. olmasaydı da, gönülle dolmasaydı. Sevda olmasaydı da, gönülle dolmasaydı. Dünya neye yarardı da, güzeli olmasaydı. Dünya neye yarardı da, güzeli olmasaydı. Oyar zülfünü tarar da, gönül yarim arar. Oyar zülfünü tarar da, gönül yarim arar. Dünyada sevmeyenler ahirette neye yarar? Bu dünyada sevmeyenler ahirette neye yarar? Nar tanesi tanesi de, seviyorum bir tanesi. Güzellerin içinde de, sevdiğim bir tanesi.
Sveda Almaseidi, chanson extraite de l'album Yol du groupe Altingun, groupe basé aux Pays-Bas, dont les origines et les racines se situent en Turquie, Anatolie, d'où ce son si particulier propre à ce groupe qui redéfinit à sa mesure ce qu'on appelle les musiques du monde. Second reportage de ce Crossroads, celui consacré au duo Digital, qui propose au public une musique basée sur le didgeridoo, cet instrument trompe si particulier et ancestral, qui produit des sons venus d'ailleurs, qui nous transportent vers le spirituel. Nous avons rencontré ce duo atypique au gros festival 3e édition, qui s'est déroulé les 5 et 6 septembre derniers, au bord du plan d'eau de Perrin. Nous reparlerons plus en détail de ce festival dans un prochain Crossroads. En attendant, voici un premier titre issu du EP Serendipity, conçu en 2024. Thank you. Digital, bonjour.
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 Une petite présentation peut-être pour commencer. Donc, vous êtes les deux membres originels du groupe.
Alors, plus que ça, on est les deux membres originels et en plus, on est les deux seuls membres. Donc, tu vois, réellement originels. Alors, et en plus, c'est pas vrai parce qu'on a commencé à trois. C'est pas vrai. Il y a eu un moment où il y avait un batteur avec nous. Digital, c'est donc Baptiste et moi-même, Kéké. Avec Baptiste, ça fait plus de 20 ans qu'on fait de la musique ensemble. Donc d'abord au sein d'un groupe qui s'appelait JMD, dans lequel on jouait déjà du didgeridoo, encore du didgeridoo, et on joue toujours du didgeridoo, voilà, principalement dans Digital. Voilà.
Donc didgeridoo et...
Deux didgeridoo, une basse.
Voilà, une basse et des machines.
Avec
et
des synthés.
Et des synthés, voilà.
D'accord. Donc pas mal d'électro qui accompagne le didgeridoo, on va dire ça comme ça.
Exactement, ouais. Ouais.
Est-ce qu'on peut parler d'ethnotrans ou c'est un terme qui vous conviendrait ou pas?
Pas vraiment, parce que
pas vraiment,
on n'est pas vraiment dans le milieu trans.
Non, d'accord. on est un peu plus bas en termes de tempo. Ouais.
Un peu plus bas.
Et puis dans la composition des morceaux, on peut plus se rapprocher d'un format pop voire rock, c'est-à-dire couplet refrain. On cherche pas forcément. Pas tout le temps à faire tourner, si tu veux, un truc pendant 10 minutes, la même chose. Voilà.
D'accord, oui, donc en cela, vous vous éloignez du concept de trans.
C'est ça.
Un petit peu.
Oui, en tout cas, un petit peu, même si souvent on est associé et que ça ne nous dérange pas de l'être non plus, du tout. Hein, c'est pas, y a pas de guéguerre, mais c'est vrai que pour nous, on n'est pas vraiment. On cherche pas, c'est pas notre recherche. Quoi.
D'accord. Qu'est-ce que vous cherchez à faire passer au niveau du public finalement? Un dépaysement, un voyage quelque part.
Alors oui, si tu veux, si ce n'est que, enfin, on conçoit la musique d'abord comme un élément personnel. Donc pas, on fait pas de la musique. Enfin, en tous les cas, on fait pas de la musique, on se nourrit pas de la musique pour les autres. On le fait d'abord pour nous. On a la chance de pouvoir la faire partager et que ça parle à certains, donc du coup c'est tout bénéfice. Mais en tous les cas on ne cherche pas à faire des trucs en se disant ça va plaire, parce que là t'es sûr que ça marchera pas, enfin, ou que tu peux être déçu,
que ce sera pas sincère,
voilà, et en plus ce sera pas sincère. Donc on fait la musique qui nous anime, une musique qui vient d'un simple son sur lequel on va travailler, et puis on sait pas trop des fois, voilà.
Toutes nos influences, qu'on a plein d'envies, on a plein de styles différents qu'on écoute.
Ouais.
Ça va vraiment d'électro un peu barré à des trucs très world, et à des trucs des fois qui se rapprochent plus de musique des années 80.
Ouais,
voilà.
Ouais,
donc en fait, c'est vraiment la musique qui nous plaît, avec laquelle on s'amuse et qu'on partage.
Et les influences années 70
alors,
pas forcément.
Tu sais que...
Je pense.
Mais je dis ça parce que
je pense au rock allemand, tu vois, ce genre de choses.
Alors, tu sais qu'on a,
forcément.
On a joué il y a 3 semaines, on jouait en Allemagne et quelqu'un est venu nous trouver en disant ah mais vous êtes vachement influencé par Kraftwerk. On s'est dit tiens. Ils nous ont dit ça parce qu'on était en Allemagne. avec notre groupe précédent, on avait fait une reprise merveilleuse, à jouer en live merveilleuse, à enregistrer merveilleuse, d'Echoes de Pink Floyd. Donc oui, les années 70, si tu veux, c'est dans plein de choses, oui, mais dans le fond, dans le sucre du truc, il y a quand même beaucoup plus de New Wave, quelque part, de cet esprit-là. Donc, peut-être aussi techno-allemande dans ce côté-là que 70, voilà, de la techno-allemande, oui, mais plus 80.
Alors le didgeridoo, j'ai découvert en regardant un petit peu curieusement, j'ai vu qu'il y avait plein de groupes qui finalement ont joué. Hein.
Ah, oui.
Il y a même un festival.
Oui.
Auquel vous, c'est quoi le nom déjà du festival?
Le rêve de l'aborigène.
C'est ça?
C'est ça que tu as vu,
ouais.
Ouais. C'est un festival qui est dans les Deux-Sèvres, qui existe depuis plus de 10 ans, hein. Ça va faire 12-13 ans.
Ça fait 22 ans.
Et qui est un ovni, parce que mondialement, c'est le festival qui rassemble le plus de joueurs et de groupes de didgeridoo. Et pourtant, c'est en France.
Ouais.
Voilà.
Oui.
Et il y a didgeridoo, guimbarde et chant diphonique, parce que souvent, les aficionados du didgeridoo aussi sont aussi portés par tout ce qui est harmonique à côté.
Oui.
Et donc, on y a joué 2 fois avec JMD, et pas avec Digital, parce que c'est quand même un festival qui est très porté sur l'acoustique. Donc sur tout ce qui est joué de manière très organique,
oui.
Voilà. Donc
d'accord.
Si possible sans électro, oui. Voilà. Et donc, en effet, c'est un truc qui est énorme et c'est quelque chose d'assez fou comme festival. Ça existe.
Et oui. C'est fou, hein, quand même.
C'est fou.
C'est complètement fou. Et avec une qualité de jeu de dingue, une qualité de joueur en France juste incroyable, une qualité de fabricant d'instruments. Oui, quasiment les meilleurs crafters, donc fabricants de didgeridoo, sont français, comme DJ Lehman, comme Oujazi, et plein d'autres. Et vraiment, en France, il y a vraiment une excellence dans ce travail-là.
DJ Lehman, Christian Guéret. DJ Lehman, très local, vu qu'il est à Autran.
Ah oui.
Et qui exporte des didgeridoo dans le monde entier. Voilà. Incroyable aussi, hein.
Ouais, incroyable. Oui, c'est... Et il y a des instruments proches du didgeridoo dans le monde sceptique, par exemple. Ah oui. Il y a des...
Pas tant.
Bah, justement, j'ai plus le nom en tête, je suis désolé.
Ah bah la gabarre, mais ouais.
Non, mais, un instrument qui est très proche, même physiquement, esthétiquement.
Il y a la grande corne, là, avec la tête de dragon.
Oui.
Dans un peu nordique.
C'est ça.
Je sais plus le nom de ce truc.
Oui, une espèce de corne de
brume. Mais ça joue pas du tout de la même façon.
Non.
La forme.
Attention, parce que le
son peut être un peu proche.
Le son, ça ressemble plutôt... Non, non.
Je laisse parler des spécificités.
Non, mais la spécificité du didgeridoo par rapport à d'autres instruments avant, enfin une des spécificités, c'est qu'en fait les lèvres vibrent et ne sont pas réellement pincées. Il n'y a pas beaucoup de pression sur les cornes, sur de la trompette, sur des choses comme ça. Tu vas chercher à avoir de la pression. Nous, on cherche souvent à avoir beaucoup plus de relâchement, de la pression, mais dans le relâchement. C'est pas la même, c'est pas comme le trombone ou tu vois autre. Après, tous les instruments avant ont leur spécificité de jeu, mais c'est vrai que comme nous, on ne rentre pas un élément dans notre bouche, donc on le pose sur les lèvres. Donc ce qui peut être comparable à la trompette, c'est pas du tout la même pression, quoi.
Et ça n'a rien à voir, par exemple, avec le cor des Alpes. Des fois, il y a des gens qui nous disent que de forme, ils ont l'impression de... Alors que le cor des Alpes, c'est quelque chose où on a plusieurs notes, vraiment. Le didgeridoo, on n'a qu'une seule note. Et après, on varie les harmoniques qui sont par-dessus, comme la guimbarde un peu. Ça se rapproche vraiment plus de la guimbarde, qui physiquement est complètement différente, mais ça se rapproche plus de ça. Ouais.
Alors je parlais de voyage parce que ce genre d'instrument amène des sons qui transporte les gens, forcément. Il y a vraiment quelque chose comme ça de transcendant quelque part. J'allais dire mystique, mais faut pas exagérer non plus.
Si,
qu'on comprend pas, quoi.
Tu peux le dire, parce que c'est vrai, quand tu vas jouer tout seul du didgeridoo contre un mur ou dans une salle de bain, il va se créer tellement d'harmoniques, puis tu vas jouer avec la vibration, elle va te nourrir, elle va te rentrer, elle va te faire un automassage. Après, on pourrait aller très loin. Là, aujourd'hui, on est au gros festival. Là, on n'est pas sur du médical ou du thérapeutique. On est vraiment plus sur du plaisir de musique. Voilà. Mais si tu extrais le didgeridoo, tu peux en faire. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui font du massage.
Ouais.
Voilà. Oui. Tu vois, des voyages, ce qui s'appelle des voyages sonores, avec du didgeridoo agrémenté d'un bol tibétain, agrémenté de ces choses-là, quoi.
Et puis forcément, je parlais de voyage tout à l'heure, ça fait appel aux grands espaces, à la nature.
Il y a peut-être quelque chose qui est resté dans cet instrument, hein, parce qu'à la base, donc, c'est un instrument qui est joué par les aborigènes d'Australie, qui en joue d'une certaine manière pour accompagner les chants et les danses. C'est pas du tout la manière dont nous on joue, parce qu'on se sentirait pas légitime, c'est pas notre culture, voilà. Mais c'est vrai que les aborigènes ont ce rapport à la nature et aux espaces qui est comme un tout dont ils font partie, dont ils sont mélangés, que je pense que cet instrument, pour eux, eh ben, il symbolise un peu ce rapport-là. Donc peut-être qu'il reste aussi dans la sonorité quelque chose de ça, quoi, de cette substance, peut-être de manière très inconsciente, hein, mais...
Oui.
J'ai eu la chance d'interviewer Highlight Tribe.
Ah oui, Greg.
Ouais. Alors eux, c'est encore une autre démarche. Avec là, pour le coup, des morceaux fort longs.
Très trans.
Très trans,
voilà,
là, pour
très
le coup.
Très estampillé, naturel trans.
Ce sont des références en la matière. Hein. Notamment en travaillant régulièrement à Goa, entre autres.
Hein. Oui, bien sûr. Oui.
Donc vous... vous exportez, vous aimeriez vous exporter aussi dans des lieux entre guillemets exotiques, enfin qui sortent de l'ordinaire en tout cas.
Sortir de l'ordinaire,
ça veut rien dire, tu sais, qu'on soit ici à Perrin ce soir, à côté de Romans, à Francfort comme il y a 3 semaines ou ailleurs, ouais. Tout est exotique, quoi. L'exotisme, tu le trouves sur le lieu. Ici, on rencontre des gens adorables qui travaillent avec le cœur. Je les trouve très exotiques par rapport aux gens que je peux croiser tous les jours dans la rue. Donc, c'est pas les kilomètres qui font l'exotisme.
Alors, disons qu'eux, ils trouvent leur vibration là-bas, entre autres.
Parce que culturellement, il y a aussi un passé dans ce style musical.
Oui, c'est
vrai qu'on n'a pas vraiment d'attache, en fait, par rapport à ça. On n'a pas d'attache géographique à un endroit où il y aurait comme un berceau de la musique, où il faudrait aller, une sorte de pèlerinage.
Bien sûr.
Donc, on n'a pas le besoin.
On n'a pas de standardisation qui fait que, les gens qui font ce type de musique-là vont à cet endroit-là. Nous, on peut aller partout, et justement, avec ce qui est intéressant, c'est qu'avec Baptiste, depuis plus de 20 ans, on a eu la chance, le didgeridoo a jamais été un boulet, mais on a eu la chance de pouvoir jouer dans des concerts de reggae, de rock, de musique plus ciblée, axée autour du didgeridoo, mais justement de jamais être cloisonné, tu vois, ou étiqueté pour un certain type. Et ce qui est assez sympa, parce que quand tu vas jouer dans un concert où il y a plutôt des groupes de rock et qu'on va dire, ah tiens, au moins j'ai fait une découverte.
Oui.
Voilà, je me suis rendu compte que le didgeridoo, c'est pas que méditatif, c'est pas que pour les fumeurs de joint et les joueurs de djembé. On peut faire aussi d'autres choses, quoi.
Vous aviez joué à l'Oasis Bizarre?
Non, pas encore.
Non,
ça pourrait bien coller, ouais.
Je pensais à ça parce que c'est un lieu qui vous conviendra à merveille.
Ouais, carrément. Après, il y a plein d'endroits où je pense qu'on aurait notre place, mais on est dans une époque aujourd'hui où il y a beaucoup d'offres, de groupes, que c'est très compliqué de faire entendre sa voix.
Et c'est vous qui gérez tout ça?
C'est nous qui gérons tout ça, en plus, on n'a personne pour s'en occuper, donc nous, tout ce qui est réseau, etc., on a vu arriver ça très très vite, on n'a pas vraiment eu le temps de s'habituer.
Réseaux sociaux.
Et c'est vrai que c'est pas évident. Donc il y a plein d'endroits, en effet, où ça serait...
Alors, en plus d'être pas évident, les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on a quand même une démarche où on va à reculons, peut-être aussi et très consciemment, pour ne pas alimenter la machine. C'est-à-dire devoir faire une vidéo pour faire une vidéo, devoir être un petit peu esclave de l'alimentation des réseaux sociaux. C'est un peu compliqué. Tu sais que tu dois le faire quelque part parce que ça doit se faire, mais on le fait un petit peu à reculons parce que ça, c'est trop. Et puis quand tu commences après, l'algorithme te dit tiens aujourd'hui vous avez rien fait, tu me laisses tranquille, quoi.
C'est vrai que l'Oasis Bizarre, ça fait partie pour moi, un peu comme ici, des festivals de gens passionnés de musique qui vont défricher un peu d'autres groupes, d'autres etc. Alors après, c'est pareil, l'offre est énorme et je pense qu'ils se font démarcher, mais comme pas possible, donc c'est pas validant. Mais c'est vrai que par contre, on a vu dans beaucoup d'autres festivals une nouvelle tendance qui arrive, qui est de demander aux groupes d'avoir du résultat.
Ah oui.
Ouais. C'est-à-dire que les festivals font venir des groupes pour avoir du résultat, pas parce qu'ils aiment la musique. pour, parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait le maximum de gens qui bougent, qui dansent, qui lèvent les bras et qui disent oui. C'est une nouvelle tendance qu'on a vue depuis plusieurs années là, qui nous dérange un petit peu, donc c'est pas évident, enfin voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'il y a des festivals comme ça qui
ah ouais,
qui s'en dégage, qu'on aimerait. Voilà.
Là, ce soir, là, au gros festival, c'est vraiment un état d'esprit qu'on retrouve du début des années 2000. Incroyable. Mais que ce soit les, enfin tout l'organisation, les gens sur le plateau, les techniciens, tout ça, c'est un vrai plaisir. Quoi.
Sur le plan discographique, on parlait de vidéo, mais ça dit quoi?
En termes de création ou en termes de...
Alors là, on a sorti un nouvel EP, tu vois, regarde, pour contrecarrer un petit peu l'idée du format classique, on a la dernière chose qu'on a sorti en début d'année, c'est un morceau de 15 minutes.
Un single
de 15 minutes, mais avec trois parties à l'intérieur de 5 minutes, mais qui n'est qu'un morceau. Voilà, pour un petit peu, on ne consomme pas 30 secondes et on change. Il y a, voilà, tu t'arrêtes 15 minutes. C'est pareil, c'est une démarche qu'on a comme ça, pour forcer, mais pour dire, on peut changer aussi le truc, quoi. Quand on écoutait un vinyle, on mettait une face de vinyle et tu mettais pas 30 secondes en déplaçant ta tête sur les sillons, tu écoutais le morceau.
Voilà. C'est marrant que tu dis ça, parce que ça me fait penser à Steven Wilson, je sais pas si vous connaissez, hein, qui vient de sortir son disque Overview. C'est exactement le même concept. En fait, c'est deux fois plus ou moins 30 minutes.
Ouais. Voilà. C'est très progressif dans l'esprit.
Oui.
Ouais.
Oui, alors que là, nous, on a fait un morceau de 15 minutes. Ce n'est pas un truc progressif. C'est vraiment une succession de morceaux. Avec une cohérence. Ce qu'on pouvait faire avant dans les CD ou dans les vinyles, où tu faisais un morceau qui suivait un autre et tu les entremêlais avec une certaine, voilà, la cohésion des morceaux avait leur importance, quoi.
Donc on peut vous retrouver à travers un EP.
Ouais.
Non, c'est important. Hein,
On a
justement, très facile.
Combien d'albums
Deux vrais albums.
Trois albums et deux, trois EP.
Et un single,
oui.
On
aime bien faire de la musique.
et digital, donc sur toutes les plateformes numériques, ouais. on nous retrouve. Et la dernière chose qu'on a trouvée, ça s'appelle 4947. Donc 4947, ce qui est super et on n'y a pas pensé au début, c'est qu'en fait tu tapes 4947 sur n'importe quelle plateforme numérique et du coup on arrive, parce que notre nom de scène, donc digital, Google en l'occurrence, pour pas le nommer, pense qu'on fait une faute d'orthographe et que c'est digital, alors nous voilà, c'était la contraction de didgeridoo et de musique digitale, voilà, c'est un jeu de mots,
difficile de vous trouver, hein.
Maintenant la facilité, on l'a trouvé, tu tapes 4947 et on apparaît partout. Encore plus facile, 4947, c'est un code qui veut dire dig.
D'accord. Voilà. Et ça peut s'acheter physiquement également, ou je veux dire
On est sur Bandcamp.
Ouais.
Sur Bandcamp, c'est possible. On a encore fait presser pas 4947, mais ceux d'avant, on les a encore fait presser. On les a physiquement. Ouais, donc sur Bandcamp, c'est possible de les acheter.
Okay. Et dans quelles conditions vous travaillez? Vous avez un studio spécifique?
On loue un local collectif.
Ouais, on loue un local. On partage un local avec plein d'autres groupes de la région grenobloise.
Ah ouais.
Voilà.
Ouais.
D'accord. Avec, dans le même local, le bus.
L'ukulélé. Avec Arache Arkashik.
Ah oui.
Ouais,
donc il y a un réseau là.
C'est des copains, ouais. C'est tous des amis.
Ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant de pouvoir fédérer un peu les choses.
Oui, oui.
De pas se retrouver complètement tout seul dans son coin.
Ah oui, non. Oui.
C'est sûr.
Ok. Bon, ben, pour une interview découverte, je trouve.
Ça allait.
C'est pas mal.
Ça allait. Hein, on a bien fait.
Ouais, c'est bien.
On a tout répondu bien.
Oh oui.
On aura une bonne note.
Il ne reste plus qu'à vous découvrir tout à l'heure.
Ouais, voilà. Live, voilà, hein,
avec grand plaisir.
Ouais.
Merci.
Merci à toi.
Thank you.
À l'instant, en guise de clôture du reportage consacré à Digital, le groupe Trans Highlight Tribe enregistré live à Goa en 2011, titre choisi Fouet Tibet. Place à Maya Baru, la franco-japonaise ouverte à toutes sortes d'aventures musicales, que ce soit dans le jazz, l'électro, le hip-hop, au sein de diverses formations et collaborations, notamment avec l'accordéoniste de Java, Fixie. Inclassable, troublante, telle nous apparaît la flûtiste-chanteuse Maya Baru, découverte avec l'album Aïda, paru en 2021. Titre proposé, Hafu.
Vivant sur terre entre les lignes, en funambule sur les frontières comme passagère et patroïne. Skinny jeepen des labels, et label au J.E.N.I. J'suis moitié comme toi, et moitié pas toi. Un pied ici, l'autre pas loin de Chine. Je donne de la voix, et des fois j'aboie. La reine des bâtards, c'est moi la queen. Kokyo no ue. Parce que je suis half. Parce que je suis half, 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 half. Parce que je suis half.
Ouais, une moitié, ouais.
Parce que je suis half, 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 half. Vivant sur terre entre les lignes, en funambule sur les frontières comme passagère et patroïne. Je ne parle aucune langue sans aucun accent, une langue adultère, un peu gagine. Je navigue à vue sur le bateau qui tangue. C'est peut-être ce que je préfère, just in between. Parce que je suis half. Parce que je suis half, 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 half. Parce que je suis half. Parce que je suis half, 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 half. C'est gagé, une porte entre-ouverte, pour faire l'étiquette Rambundakiro, comme le guest, autant de gaz et il est daqué, d'autres chicanantes. Et la banane, il faut t'as t'en rata, mot tes têtes se fondent sur les marqués, prends ce qui te plaît.
Symbole vivant du métissage musical, Oketemiz, batteur-percussionniste turc, fondateur d'Oriental Wind, a toujours croisé ses propres influences avec d'autres musiques plus occidentales telles que le jazz. Illustration avec le LP intitulé Fils, Fils, Tsigan, réalisé en 1989. Titre proposé, Hikaz Dolap. We'll be right back. Ainsi s'achève cette émission Crossroads, consacrée aux musiques sans frontières. Remerciements tout de suite, bien sûr, à Gaël pour la production de cette émission, ainsi qu'à Sylvie pour le montage des interviews. On se quitte avec Anushka Shankar, fille de Ravi Shankar, qui a suivi avec brio et sensibilité la voie tracée par son père, le sitar étant la porte d'entrée. Illustration avec son titre joliment intitulé « Traveler » pour un instrumental dénommé « Bhairavi ». C'est parti avec Anushka Shankar. À bientôt.